micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble.
Bonjour à tous et bienvenue du coup à l'écoute de Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. Pour l'émission du mois de mars, on avait envie de revenir sur des thématiques décoloniales, puisqu'on est dans le cadre du mois décolonial qui est actuellement en cours et qui n'est pas fini.
Et on s'écoute d'ailleurs, en guise d'introduction, une petite présentation du mois décolonial par l'une des personnes membres du comité organisateur, Nadia.
Donc déjà, merci en tout cas Nadia de prendre ce petit temps pour nous représenter le mois décolonial. La première question qu'on se posait, c'est ça veut dire quoi pour vous décolonial ou pensée décoloniale? C'est quoi que vous entendez derrière ce mot?
Alors, nous, ce qu'on met au centre des réflexions durant ce mois, c'est la question des inégalités et comment on fait pour dépasser les obstacles à ces inégalités et porter la question de l'émancipation et de la justice sociale. Et un frein majeur, l'obstacle principal, c'est ce rapport de domination en fait qui se fonde sur une exploitation des uns, l'exploitation des uns par les autres. Et cette exploitation, en fait, elle trouve son origine dans l'esclavage et la colonisation. Donc, quand on parle de décolonial, c'est l'idée de déconstruire, en fait, ces mécanismes de domination, d'exploitation, et de les inscrire dans ce qui a été leur origine, c'est-à-dire la colonisation et l'esclavage. Donc là, c'est la deuxième édition. Cette année, on est une vingtaine d'associations à porter ce collectif qui organise le mois décolonial. Il y avait 4 associations l'année dernière et cette année, donc, on est une vingtaine. Donc, ça veut dire que ces questions-là, en réalité, elles suscitent de l'intérêt et c'est bien normal puisqu'en réalité, elles sont centrales. Souvent, on traite la question du racisme, la question des inégalités comme une question marginale et qui n'est pas importante par rapport à d'autres sujets qui, eux, seraient plus essentiels. Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est structurant ce rapport d'exploitation, ce rapport de domination, il est absolument structurant, économiquement, socialement, et certes, ça touche les gens qui sont confrontés au racisme, qui sont confrontés aux discriminations, qui sont confrontés à la violence symbolique, mais ça touche, et qui sont confrontés, disons, directement, parce qu'on subit, parce que c'est des préjudices et des dommages qui sont lourds, c'est une violence qui est inouïe. Et on ne mesure pas la portée de cette violence et des effets qu'elle engendre. Donc, c'est vraiment très important d'évoquer ces questions-là, mais pas uniquement du point de vue des gens qui sont confrontés à cette violence, mais aussi de ceux qui n'y sont pas directement confrontés parce qu'ils ne sont pas issus de l'immigration postcoloniale, parce qu'ils ne sont pas de telle ou telle origine. Et en réalité, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'une société qui repose sur de telles inégalités est une société qui est fragile. On a besoin de poser cette question de la cohésion. Comment on vit ensemble? Comment on fait ensemble? Comment on lutte ensemble? Et cette question d'une société multiculturelle et pluriethnique, on voit bien en fait qu'elle préoccupe tout le monde. Certains la dénoncent, veulent que les gens d'origine africaine, par exemple, retournent chez eux. D'autres sont capables de se penser et de se reconnaître dans l'altérité. Donc, on voit bien qu'en réalité, ce questionnement sur qui on est, comment on fait ensemble, quelle place on occupe, la question évidemment de l'égalité d'une égalité réelle, hein, au-delà des affichages et des discours. Donc, toutes ces questions-là, en réalité, elles sont absolument essentielles. Elles structurent notre société, elles préoccupent la plupart d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'évoquer encore ces sujets-là. Et évidemment, ce ne sera pas du jour au lendemain qu'on va réussir à dépasser les problèmes. Du coup, on a besoin de cet espace de réflexion, de rencontre, d'échanges, hein, qu'on propose avec le mois décolonial. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait perdurer cet événement. Les problèmes de discrimination sont toujours très présents, continuent de dégrader des vies, continuent d'engendrer des problèmes lourds. Et voilà, tant qu'ils ne seront pas dépassés, on aura besoin eh bien, de réfléchir à ce qui les produit et à comment fabriquer une société qui permet de reconnaître chacun en tant qu'égal et à sa juste place.
Quels sont les prochains événements du coup jusqu'à la fin du mois décolonial où on peut vous rejoindre
Alors on a encore beaucoup d'événements parce que c'est vrai que c'est un programme qui est dense, hein, qui est très dense. On a une proposition qui est riche, aussi bien avec des tables rondes et des formations qu'avec des spectacles et des concerts. Voilà, du coup on a et puis aussi, on reçoit des femmes qui luttent, qui mènent des luttes extrêmement difficiles, mais importantes, comme Assa Traoré, qui est attendue pour le jeudi 24 mars à l'Office du Tourisme. On a une conférence le 28 mars sur Total en Ouganda. Oui, c'est donc le 28 mars, je l'ai dit. Et puis, des concerts avec Rosé et Jazzy Assatour. Voilà, je mets en exergue ces trois événements, mais je pourrais en indiquer d'autres. Les gens indiquent encore un autre, c'est Nadège Deveau qui anime un atelier « Comment les stéréotypes mènent aux discriminations et comment les combattre ». Voilà. Mais je vous invite à consulter le programme, hein, sur le net, moidécolonial.fr, où là, voilà, vous aurez le programme complet et actualisé.
Parfait, ok, super. Bah, merci pour ces informations, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous rappeler la démarche du mois décolonial.
Bah, merci, hein, pour cette invitation et de nous donner l'opportunité de dire ce qu'on est, ce qu'on fait, dans quel but. Voilà.
Avec plaisir. Une prochaine fois, une émission complète sur le sujet.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Malheureusement, ce sera trop tard pour aller aux conférences sur l'écologie décoloniale et l'antispécisme décolonial, puisque se sont déroulées la semaine dernière. Et voilà. Et du coup, on a eu de la chance, à l'occasion de ces deux conférences, de pouvoir proposer aux intervenants de venir nous réexpliquer ces choses-là de manière radiophonique. Du coup, merci aux trois personnes qui sont autour de la table ici. Donc merci Charlotte, merci Malcolm et merci Kevin et bienvenue sur le plateau de micro-ondes, si on peut dire. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? On commence par toi, Charlotte.
Alors bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis donc la créatrice du compte food Mangeuse d'herbe sur Insta, donc je propose des recettes vegan et afro-vegan, c'est-à-dire des recettes traditionnelles végétalisées. Je suis également activiste animaliste et je travaille sur tout ce qui est la question de sensibilisation et d'antispécisme décolonial, donc c'est-à-dire questionner cette idéologie et aussi comment la rendre accessible aux personnes racisées.
Alors bonjour, donc moi c'est Malcolm Ferdinand, je suis chercheur en écologie politique sur les questions écologiques dans la Caraïbe, mais aussi dans les Outre-mer et les proches régions. J'ai travaillé sur la question de l'écologie décoloniale à travers un livre, notamment qui est sorti il y a 2 ans, « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Et avec plusieurs collègues, dont Mélissa Manglou, avec qui nous sommes intervenus hier, nous avons co-créé un centre de recherche qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde, qui est un centre de recherche où on travaille les questions écologiques depuis les Outre-mer et leurs proches régions. Et voilà.
Merci. Est-ce que Kevin, tu veux te présenter aussi ou rapidement?
Ouais, Kevin, membre d'un collectif de soutien anti-chlordécone en France.
Ok. En tout cas, merci. Voilà, merci d'avoir pris un petit temps avec nous, justement, précisément pour.
Non, en fait, c'est le collectif, c'est K13J20. Je sais pas comment les gens veulent ça.
Ok.
C'est quoi le plus adapté comme nom?
Ça marche. Bah, en tout cas, merci. Voilà, merci à tous les trois d'avoir pris un petit temps pour réaliser cette émission et pour nous éclairer un peu plus justement sur les spécificités de vos luttes et notamment sur les critiques, on va dire, que vous pouvez faire et à l'écologie telle qu'elle est majoritairement pensée par ici, on va dire dans l'Hexagone. Et puis je vous laisserai justement nous expliquer comment on peut correctement parler de ici et de là-bas ou du monde caribéen, etc. Mais en tout cas, voilà, de nous expliquer et les spécificités ou les critiques que vous pouvez faire à l'antispécisme ou à l'écologie quand ils sont pensés sans votre point de vue, sans vos voix, sans vous, finalement. Est-ce qu'on pourrait peut-être d'ailleurs commencer par la question écologique et justement, principalement, quelle est la critique ou pourquoi avoir eu le besoin de penser l'écologie depuis le monde caribéen comme vous l'avez fait dans votre livre, enfin, comme tu l'as fait dans ton livre, Malcolm?
Alors, la nécessité vient d'un constat, celui qu'une partie de celles et ceux qui peuplent la Terre ont été, bon gré, mal gré, exclus des arènes depuis lesquelles on pense l'écologie. Qui sont-elles? Je pense aux peuples colonisés ou anciennement colonisés, les peuples autochtones, les personnes racisées qui vont être présentes sur le sol hexagonal français et également dans les pays dits du Nord. On a historiquement exclu ces personnes de la façon dont on va conceptualiser l'écologie. Et cela pose problème à plusieurs niveaux, au-delà de l'exclusion dont ces personnes sont victimes. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence à vouloir penser la manière dont les humains habitent la Terre et l'ont habitée historiquement, sans une partie de celles et ceux qui font que la Terre est Terre. Et le fait que ces personnes soient absentes a permis d'invisibiliser certaines thématiques et de favoriser une manière de penser l'écologie qui met de côté les préoccupations, les attentes, les désirs, les souffrances et les histoires en fait, de ces personnes. Donc aujourd'hui, on a une écologie qui va porter des critiques à la technique, va porter des critiques au capitalisme, mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui en France une écologie qui se revendique ouvertement et frontalement, fondamentalement, de l'antiracisme, par exemple, ou d'une écologie qui veuille véritablement saper les fondations coloniales à la fois de ce pays, de la France, mais aussi du Nord. Et du coup, j'ai voulu prendre dans mon livre le contrepoint de cette écologie qu'on peut dire mainstream, en partant de la perspective de celles et ceux qui vivent dans les ruines de l'Empire colonial français. Donc moi, je suis martiniquais, j'ai grandi en Martinique, ayant constaté différents processus à la fois liés au racisme, au legs colonial, mais aussi à la manière destructrice d'habiter ces terres et de détruire l'environnement. Et faire ce pas de côté permet de proposer une autre conception d'écologie, une qui ne sépare pas égalité homme-femme, justice sociale, anti-racisme, et la préservation des écosystèmes, mais qui vraiment prend tous ces éléments et les propose ensemble, de manière inextricable. Donc on sort d'un technicisme et on va vers une véritable écologie politique radicale qui permet, à mon sens, un vivre ensemble beaucoup plus pluriel, beaucoup plus divers que ce que l'on voit dans les partis politiques, dans les universités, dans les marches du climat, dans les milieux écolos.
Oui, justement, je dirais que j'ai l'impression que c'est une double critique. C'est une critique des technocrates et on va dire de ceux qui pensent enfin qui génère la pollution et qui derrière pense entre guillemets les réparations ou les compensations, mais c'est aussi, si je comprends bien, une critique vis-à-vis aussi des militants. C'est-à-dire que c'est aussi un angle mort finalement du militantisme, la question de la question coloniale entre guillemets. Ou...
Alors effectivement. Voilà, il faut pas toujours. Enfin, le mot critique n'est pas toujours négatif. Et je salue le combat que mènent beaucoup de militants qui veulent, à leur échelle, depuis leur lieu, œuvrer à réduire le réchauffement climatique, limiter la perte de biodiversité, etc. Donc la critique est aussi une ouverture, un appel à une ouverture en disant, écoutez, il y a effectivement un point d'ombre ou un absent. Il y a, quand on fait ces marches, en fait, on regarde à droite, on regarde à gauche, on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas présentes. Et la critique que je fais, c'est que l'on s'accommode de ces absences. Parce que cette critique de l'absence, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les années 70, en fait, on a très bien vu la naissance de l'écologie politique en France, etc. On a très bien vu qu'il y a certaines populations, certaines catégories de patients qui sont exclues. Donc là, c'est une critique en disant, je crois qu'il faut non seulement voir comment on peut recomposer ces espaces de sorte à ce qu'on se rencontre, de sorte à ce qu'on ait une autre manière de faire monde, y compris dans la militance. Mais il y a aussi une critique au niveau conceptuel du fait que la manière d'aborder les grands penseurs, dits penseuses, penseurs de l'écologie, aussi n'ont pas véritablement pris en compte ce que j'appelle la fracture coloniale. Le fait que les pays du Nord, y compris la France, se sont construits historiquement, je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais historiquement, se sont construits sur la domination d'autres peuples de la Terre, y compris dans les Amériques, y compris en Afrique, y compris en Asie, y compris en Océanie, en fait, avec des phénomènes de déshumanisation pour lesquels tous ces peuples-là n'ont pas eu justice, et qu'on ne peut pas faire comme si, dès lors que l'on parle de l'écologie, dès lors que l'on parle de la façon dont on va habiter la Terre, on peut mettre ça de côté, on peut le glisser sur le tapis. Il y a des choses à discuter. Donc, l'autre danger, l'autre problème de cet angle mort, c'est que du côté des peuples anciennement colonisés, du côté des personnes racisées, on peut avoir le sentiment que l'écologie, ça ne me concerne pas. L'écologie, c'est un truc de blanc. On entend souvent une façon de dire, mais en fait, non seulement je n'ai pas à dire mon mot là-dessus, mais en plus, ceux qui pensent écologie ne s'intéressent pas à moi. Et je pense que là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer. On peut plus continuer comme ça. Il faut vraiment que, y compris dans les quartiers populaires, qu'il y a de belles initiatives qui se font, y compris depuis les Outre-mer, donc peut-être on en parlera après, y compris dans certains milieux antiracistes, on a à s'approprier de cette question écologique, on a à proposer non seulement notre façon de problématiser la question, mais aussi d'y répondre.
Ok. Une question justement un peu... est-ce que c'est possible de nous donner quelques exemples, je dirais, à la fois de cette pensée, de cette vision coloniale, à la fois en matière de pollution, mais je dirais même à la fois en matière parfois d'aménagement écologiste. On parlait hier de la création de parcs nationaux, où je pensais des fois à des compagnies qui, par exemple, vont polluer ici et acheter des forêts ailleurs pour avoir des compensations ou ce genre de choses. Enfin, est-ce qu'on peut avoir une illustration aujourd'hui de... Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... De la vision coloniale, on va dire, de l'écologie.
Moi, ça me fait penser au projet, là, je pense, qui est peut-être en cours de vote à Genève, le projet 30x30, qui est donc l'appropriation, la mise sous cloche des terres, notamment en Amazonie, mais ailleurs, donc c'est un sommet qui regroupe... les plus grands pollueurs de la planète, Nestlé, Total, etc. Et ils vont décider de faire toute une méthode de préservation, de mise sous cloche, sans compter les autochtones qui sont sur place, qui vont bien sûr être exclus et de leurs terres, chassés de leurs terres. Et pour moi, c'est vraiment ça a lieu, je crois, cette semaine. Pour moi, ça illustre parfaitement ce rapport à la terre où des personnes qui font partie quand même du plus gros du problème viennent s'emparer des terres pour faire le plus grand bien, alors que bon, quand même, il y a vraiment une question de responsabilité et de reconnaissance de souveraineté, quoi.
Ouais, c'est, enfin, C'est d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qui a été évoqué avec la question de la sensibilisation, c'est-à-dire à un moment de dire que, j'en sais rien, moi, potentiellement, ça va être des personnes qui viennent de l'Hexagone ou en tout cas qui vont dans les quartiers populaires pour aussi faire tout ce travail d'expliquer comment le tri des déchets doit être organisé, etc., sans même se poser la question de, mettons par exemple, de la fabrication des déchets ou ce genre de choses. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas de la conférence hier.
Oui, tout à fait. Alors, il y a ces politiques explicitement environnementalistes qui vont porter des biais coloniaux. Notamment la mise sous scellé, comme le rappelait Charlotte, de certains espaces. On pense aux parcs, notamment. En fait, les premiers parcs de préservation, de conservation de l'environnement ont été créés aux États-Unis, dans l'Ouest américain, l'Ouest états-unien plus précisément, et ont été créés avec pour condition historique le génocide des Amérindiens, condition contemporaine l'expulsion de celles et ceux qui y survivaient en fait. Donc c'est déjà une compréhension racialisée en fait de l'espace. Il y a un très bon livre qui parle de cette différence de traitement entre les parcs qui vont être établis en Afrique subsaharienne et les parcs qui vont être établis au Cévennes. Donc je parle de livre de Guillaume Blanc, l'invention d'un colonialisme vert. Mais cette logique, on la retrouve dans d'autres espaces, y compris en Amérique du Sud, y compris en Asie. Et là, voilà, ça c'est en cas. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus souterrain qui est la manière même dont on habite la Terre depuis l'Hexagone. Ce qu'on consomme, en fait, nos propres consommations, alors encore une fois, peut-être on y viendra après, sont porteuses de violence dans des contrées que, comme on ne les voit pas, ben peut-être on ne pense pas à ces violences. Il y a plein d'exemples, on peut parler du pétrole, on peut parler du coltan, ce à quoi on utilise nos téléphones portables et autres. On peut parler aussi de la banane. En Martinique, en Guadeloupe, on subit encore les conséquences de l'usage de pesticides extrêmement violents. Alors, il y en a d'autres, on retrouve ici en France, hexagonale, mais aussi ailleurs. Mais quand on pose la question pour quelles raisons on a utilisé ces pesticides et pour quelles raisons on a soumis les Antillais à l'exposition de ces violences chimiques, en fait, avec, donc, je parle du chlordécone qui entraîne des retards de développement cognitif et visuel et moteur des enfants, qui ralentit les pertes de grossesse, enfin qui réduit pardon, les pertes de grossesse et qui augmente le risque de cancer de la prostate chez les hommes. Pourquoi on a utilisé ça? On a utilisé ça pour alimenter un marché hexagonal principalement en bananes. Donc ça veut dire que afin que les personnes qui habitent l'Hexagone puissent faire leur smoothie, puissent avoir la petite banane du goûter, la petite banane du matin, etc., en fait, ben, il y a des ouvriers et des ouvrières agricoles qui ont été exposés de manière directe, et il y a tout un peuple en fait, qui a été exposé de manière chronique pendant plus de 50 ans. Exposition pour laquelle ces peuples aujourd'hui n'ont pas eu ni obtenu justice. Et donc là, on voit comment cet ailleurs reste complètement invisibilisé ici. Donc quand je dis ça, ce n'est pas un appel à la culpabilisation des Français et Françaises, mais plutôt un appel à la responsabilisation. C'est-à-dire de dire, bon, en fait, ce que vous avez consommé a entraîné des souffrances chez nous. Comment peut-on prendre acte de cela, comment peut-on agir face à cela. Donc voilà, voici un exemple, on pourrait prendre le même sur la question du nucléaire, voilà, l'uranium, on sait très bien d'où il vient, et on voit qu'il y a encore des formes de colonialité dans le rapport avec l'extérieur, ces violences vont être décrites, pointées, dénoncées depuis ici Hexagone, la possibilité d'avoir des voix qui émanent de ces espaces au sein des espaces où on parle d'écologie ici reste assez rare. Donc on a quand même l'impression que l'écologie se discute ici, on va parler de ce qui se passe là-bas, mais le là-bas ne vient pas vraiment parler avec nous ici.
Et merci donc pour cet éclairage depuis là-bas. Je propose qu'on se fasse une première pause musicale en écoutant Kassav Oulé. Bonne écoute. Thank you.
l'amour n'est pas qu'à trouver. Loin de nous que douter, en qui j'en la mettre secret.
Vous êtes toujours sur Micro-ondes, le 90.8. On vient de s'écouter Cassave Oulé et on continue nos échanges sur l'antispécisme et l'écologie décoloniale.
Cette question qui est évoquée, pour moi, recoupe un enjeu qui a été abordé hier un peu à la fin de la conférence, qui est celle de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que finalement, et l'écosystème et en tout cas la plupart des terres agricoles sont en fait pensées selon les besoins de l'Occident ou en tout cas de l'Hexagone. Est-ce que vous pouvez développer ces questions et je dirais nous expliquer en quoi la question de la souveraineté alimentaire s'articule soit avec la question de l'antispécisme, soit avec la question écologie.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que en France, mais comme ailleurs, et précisément en Hexagone, alors peut-être je peux faire un petit point sur la différence entre... On parle souvent de la métropole, on fait la différence entre métropole et outre-mer, mais ce terme métropole, il est violent, il est chargé d'une histoire raciste et coloniale. En fait, le couple métropole-colonie faisait précisément référence... Enfin voilà, c'était un couple entre l'espace central et la périphérie. Dès lors qu'il y a eu les indépendances d'un côté, il y a eu une forme de décolonisation par la départementalisation, en tout cas une décolonisation statutaire depuis 1946, c'est-à-dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane et les autres ne sont plus des colonies françaises, alors on n'a plus besoin, en tout cas on n'a plus raison de parler de métropole. Là, c'est un premier, parce que ça renvoie à cette colonie. Deuxième élément, le terme métropole est aussi chargé racialement. Donc quand vous vous rendez en Martinique, en Guadeloupe, et qu'on vous désigne comme métropolitain, on sait très bien qu'on désigne une personne blanche. Et du coup, moi, je préfère ne pas utiliser ce terme métropole, parce que d'une part, il n'y a pas que des personnes blanches qui habitent l'Hexagone, donc mais je préfère parler de l'Hexagone, parce que je n'ai pas besoin, dans ces discussions, de ramener encore une charge racialiste sur cette question. Mais il faut comprendre que sur la question de la souveraineté alimentaire, même s'il y a, et on peut le déplorer, beaucoup de ravages qu'ont connus les terres et les écosystèmes en Hexagone, eh ben, ces terres ont quand même été préservées du fait qu'une partie de leurs matières premières, enfin, matières premières que l'on consomme ici, ont été extraites ailleurs. Et quand on pense, donc ça aide et ça alimente l'Hexagone, mais quand on pense à ce qui se passe ailleurs, je me suis perdu dans la question, on va faire une petite pause, mais c'était quoi la question ? C'était la souveraineté alimentaire. Voilà. Ouais, quand on pense à ce qui se passe ailleurs, on voit que pour assurer l'alimentation à l'Hexagone, on a imposé des formes de non-souveraineté alimentaire assises ailleurs. Donc, pour revenir à la Martinique, la Guadeloupe, que je connais un peu mieux, on est dans des situations où on n'arrive pas à se nourrir sans une importation massive. Et je ne dis pas qu'en économie, il doit y avoir des exportations, des importations, soit, d'accord. Mais pendant qu'on a réussi à exporter 200 000 tonnes de bananes par an pendant plus de 50 ans à peu près, ou un peu moins, on n'arrive pas à produire les légumineuses, les légumes racines pour nous nourrir. On n'arrive pas à nourrir nos enfants dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Donc on instaure une relation de dépendance avec l'exportation et on introduit une rupture dans le rapport des anciens colonisés à leurs terres. Et ça, de plein de façons différentes. y compris dans les modes de consommation.
Alors, oui, tout à fait, je suis complètement d'accord parce que, selon moi, le fait d'être extrêmement dépendant face à l'importation, c'est pas forcément juste le fait d'être sur une île, comme certains pourraient le dire. Le fait d'être sur une île, en fait, ça ne justifie pas tous ces moyens, parce qu'en fait, c'est des mécanismes qu'on retrouve ailleurs, notamment, par exemple, en Côte d'Ivoire, dont l'agriculture est à 80% basée sur l'exportation du café, du chocolat, voilà, de ces matières premières. Du coup, il faut savoir que même dans ces pays qui ont quand même de la ressource, qui sont immenses, on parle quand même d'un continent de 54 pays, c'est énorme, eh bien, malgré tout, même dans ces espaces-là, l'agriculture n'est pas assez pour nourrir les personnes. La plupart des choses qui nourrissent les populations sont importées. Donc c'est clairement pas un hasard de voir les mêmes mécaniques de dépendance quand on voit l'histoire coloniale, quand on constate l'histoire coloniale qu'il y a eu sur ces pays. Et c'est sûr que pour moi, c'est vraiment, dans mon domaine, par rapport que ce soit au véganisme, à l'afro-véganisme, cultiver la terre, faire pousser, se reconnecter au végétal, c'est un défi d'autogestion qui est bien sûr compliqué par les gros problèmes sanitaires, puisque la terre est polluée pour encore bien longtemps. Malgré tout, on voit quand même émerger des résiliences avec de la culture hors sol. On voit des personnes qui essaient de créer des modèles, plus vertueux. Et sachant qu'on sait que même l'élevage, par exemple, pour moi en Guadeloupe, parce que je suis guadeloupéenne, faut savoir que même l'élevage, les animaux sont contaminés par le chlordécone. Donc du coup, pour essayer justement de se désintoxiquer le plus possible, de ne pas aggraver les choses, c'est encore plus intéressant pour ces populations de passer au végétal ou en tout cas de s'informer un maximum et d'essayer de se concentrer sur ce qu'il peut y avoir de local et sur des nouvelles méthodes, de nouvelles solutions à apporter.
Justement, enfin, du coup, je reprends cette balle au vol du véganisme et de l'afro-véganisme. Est-ce que tu peux expliquer un peu, et pour nous et pour les personnes qui nous écoutent, ce que tu entends par ces notions, enfin voilà, en quoi ça consiste,
Alors, théorique. L'afro-véganisme, en tout cas, moi, j'en donne ma définition. Il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir une toute autre définition, notamment parce qu'ils vont l'exprimer à travers la reconnexion aux aliments de leur terre. Pour moi, en tout cas, celle que je donne très souvent, c'est vraiment avoir, donc bien sûr, une alimentation végétale, une consommation qui implique pas d'acheter des produits animaux, que ce soit dans la mode, que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit voilà, un maximum, essayer d'éviter un maximum la souffrance animale, mais c'est aussi une réflexion idéologique qui met en rapport et en cohabitation les questions raciales et les questions spécistes. Donc, dans l'afro-véganisme, à mon sens, on constate vraiment que cette hiérarchisation des animaux, on ne peut pas, selon moi en tout cas, ne parler des animaux sans parler de questions raciales. Notamment parce que la construction du racisme et de cette hiérarchisation, elle se base sur le socle des animaux, mais aussi elle est étroitement liée à l'histoire coloniale. On va voir ça par rapport peut-être l'animalisation des personnes noires dans l'histoire. Ça a été un outil en fait de justification, de montrer qu'ils étaient soit des sans-âme, soit moins que des animaux, soit pas, soit des biens meubles. Donc toute cette déshumanisation, elle a été justifiée par ce spécisme et par cette hiérarchisation. Ce qui fait que dans le spectre racial, les animaux qui sont... entre guillemets, ceux qui comptent pas du tout, ce sont les moins que rien, quoi, sont un peu le curseur qui vont permettre de créer un spectre racial pour jauger qui seront ceux qu'on oppressera le plus. Et comme dit, par exemple, très bien dans son livre Malcolm, j'ai beaucoup aimé ce passage où il parlait de cette cale, où en fait... qui est-ce qu'on va garder, qui est-ce qu'on va jeter? Et ben, ce spectre permet un peu de jauger à travers un curseur qui mérite d'être exploité, qui est une minorité modèle, et tout ça à travers des codes qu'on va définir, notamment en rapprochant les personnes noires du singe, etc. Des choses qu'on peut constater encore aujourd'hui dans des livres d'histoire ou d'éducation, encore aujourd'hui, quoi.
Ces représentations simiesques, on les voit aussi dans les stades de foot, où en fait on va envoyer des pots de bananes à des joueurs noirs. Et je crois que souvent la réponse de ces joueurs, c'est de dire non, moi je suis pas un animal, non, moi je suis pas un singe. Mais je pense que en prenant en compte ce que tu dis, il y aurait une réponse beaucoup plus radicale en fait à proposer à cette attaque. À cette critique.
Exactement.
Qui serait laquelle, enfin, du coup, par exemple?
En fait. De constater qu'il y a une sorte de commune exploitation des animaux et des personnes noires, et que du coup, finalement, ce qui est ressenti comme une charge raciale d'être rapproché d'un animal n'est peut-être pas si négatif que ça. Et que c'est négatif dans une certaine conception occidentale de, voilà, comme a rappelé Charlotte, de la hiérarchisation, différents types d'humains et puis plus animaux. Et qu'en fait, alors, moi je pense qu'il y a plutôt un travail, mais ça c'est aussi beaucoup plus long, mais à faire pour que les peuples qui ont été déshumanisés, les personnes qui ont été déshumanisées, puissent nourrir ou développer des rapports aux animaux qui ne reproduisent pas ces formes de violence, qui ne reproduisent pas cette domination, mais qu'au contraire voient qu'en fait, La maltraitance des animaux et leur maltraitance est liée à une même manière violente, raciste, misogyne d'habiter la terre. Et que du coup, les alliances avec les animaux peuvent être une façon de renverser cet habité que j'appelle dans mon livre un habité colonial.
De la même manière que tu parles d'un habité colonial, est-ce qu'il existe un manger colonial, entre guillemets, et voilà, de quelle manière la colonisation a modifié ce rapport, notamment aux animaux, ce rapport...
C'est tout à fait le but, notamment de l'afro-véganisme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une reprise de pouvoir sur l'histoire, puisqu'elle permet de prendre conscience que justement cet outil, l'alimentation, a été comme par exemple la spiritualité, la perte des noms, la perte des traditions comme les cheveux, etc., entretenir son corps. Et le savoir médicinal qui a été perdu, mais aussi éradiqué, interdit, la langue, etc. L'alimentation, elle aussi, est un outil d'asservissement et d'affaiblissement des peuples. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on peut concevoir qu'aujourd'hui, la soul food qui est très souvent prônée, telle que, par exemple, le poulet frit, des choses comme ça, c'est surtout de la slave food. Hein. C'est une nourriture de l'esclavagisé, c'est un marquage aussi de résilience, de survie. Mais c'est aussi la marque, en fait, ça porte l'empreinte d'une marque coloniale qui a créé un régime spécial pour l'esclavagisé. Et ça partait dès la déportation, dès le début de la déportation. C'est-à-dire que pendant tout le trajet, il y avait déjà une sorte de gavage un peu vraiment différent, extrêmement carné, qui s'effectuait sur le bateau, quand ils pouvaient manger du moins. Et ensuite, quand on arrive, il faut savoir que le code noir, en France en tout cas, écrit par Colbert, régit l'alimentation de l'esclavagisé. Et notamment, son alimentation repose sur du poisson salé, qui va être par exemple la morue, et aussi le porc, le cochon. Pourquoi ces aliments ? C'est absolument pas anodin. Le cabillaud, la présence du cabillaud ou de la morue, c'est absolument pas anodin, puisque ce sont des poissons d'eau froide. Donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des poissons qui vivent dans la Caraïbe. C'est juste qu'en fait, ça a été des moyens d'écouler encore une fois les stocks, de créer de la dépendance. Aujourd'hui, la morue porte-drapeau de l'alimentation de l'histoire culinaire antillaise. Bah oui, elle est empreinte exactement de ces voyages, en fait, de ces voyages de la route, de cette or blanche, qu'on appelle l'or blanc, c'est justement toute cette culture du cabillaud, qui en fait était conservée dans du sel, et ensuite tout ce qui était un petit peu un peu sur la fin, dégagé sur les colonies, et qui permettait justement de financer, c'est-à-dire que voilà, les esclavagisés étaient nourris avec cette nourriture, si parfois ils étaient nourris. Et donc oui, il y a absolument une nourriture de l'esclavagisé, et ce qui perdure encore aujourd'hui, on se dit qu'on ne peut pas se passer de tel ou tel aliment, et bien sûr, cet aliment n'existe pas sur place.
Si on se pose la question de savoir, mais pourquoi faire tout ça ? Pourquoi nourrir de cette façon-là les esclavisés ? Pourquoi ravager des forêts entières, les remplacer par des plantations de coton, d'indigo, de canne à sucre, de bananes ? On revient à la finalité de l'habité coloniale, c'est-à-dire de pourvoir au marché hexagonal. Et que toute cette violence avait cette fonction-là, il faut bien le savoir. Et tout à l'heure, on parlait des exemples de rapports ou de rapports coloniaux dans l'alimentation. Dans les Outre-mer, on constate qu'on a une augmentation de la concentration de sucre dans certains produits. Je parle de certains yaourts, je parle de certaines boissons, Coca-Cola, Sprite et compagnie. Donc vous avez le même nom, le même produit, la même marque même de yaourt. Mais quand vous la consommez en hexagone ou si vous la consommez en Guadeloupe à La Réunion, il va y avoir entre 30 ou 50% de sucre en plus. On ne comprend pas, sachant que le sucre n'est pas forcément bon pour la santé. On se retrouve avec en plus des taux d'obésité, de diabète deux fois supérieurs à ceux qu'on retrouve en hexagone. Ça aggrave plus que autre chose. Et face à ce sujet, il y a eu une loi qui est passée en 2012 et un nouveau rapport sur l'alimentation, la nutrition en Outre-mer est sorti l'année dernière qui montre que cette loi n'a pas été efficace. Que malgré tout, en fait, sur les valeurs extrêmes, ça a un peu diminué, mais en moyenne, il y a quand même une augmentation. Et donc concrètement, il faut penser cette exposition au sucre comme des pesticides, c'est-à-dire on expose ces peuples à une toxicité accrue.
À un traitement différent.
Un traitement différent, c'est totalement. Okay.
en fait, fragiliser, voire tuer le corps noir pour pouvoir soit exploiter son corps plus facilement ou alors posséder sa terre, mais sans lui, c'est un projet, en fait. Hein. C'est un projet qui dure et qui s'exprime à travers les pesticides, à travers la nourriture, à travers, pour nos ancêtres, les longues journées sans fin. On est dans une exploitation et dans un affaiblissement, dans aussi un conditionnement. Parce que ce que l'on mange, bien sûr, affecte ce que l'on devient, notre capacité de résilience, de résistance, et notre capacité de résistance à la dépendance aussi. Donc, tout ça est étroitement lié, quoi.
Et merci pour cet éclairage sur les questions alimentaires dans les Outre-mer. On s'écoute tout de suite une petite chanson, hein, histoire de faire une pause musicale. C'est donc Akio, les VO.
Yo ve ba gwa nou ba bio, yo ve ba gwa nou. Yo ve ba gwa nou je ne sa vila za ibande wa ya ya.
Yo ve ba gwa nou ba bio, yo ve ba gwa nou. Yo ve ba gwa nou je ne sa vila za ibande ya ya ya.
Le bila ne ve bi se dwa ou to si ne te kristal. Nous les vivons liberté que comment bien nous pas de vie. Allez dis les messieurs, yo gâti nous pas qu'à faire rien. Pour qui vite, mon monde pas de chèvre pour nous jeunesse là.
Je ne sais pas pourquoi nous, je ne sais pas pourquoi nous. Je ne sais pas pourquoi nous, je ne sais pas pourquoi nous. Je ne sais pas pourquoi nous, je ne sais pas pourquoi nous.
Vous êtes toujours sur Micro-Ondes et sur Radio Campus le 90.8. On vient de s'écouter Akio, les VO. Et nous continuons nos échanges avec Malcolm Ferdinand et Charlotte Mangeuse d'Herbe sur les questions d'écologie et d'antispécisme décolonial.
Et alors justement, contre ce projet, est-ce que vous pouvez nous parler voilà, d'initiatives, de choses qui se passent en hexagone, qui se passent ailleurs, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez évoquer comme alternative, comme solution à ces questions?
Alors, il y a un ensemble d'initiatives assez connues sur le fait de consommer plus proche de chez soi, le fait d'éviter des aliments qui viennent de bien loin, etc., etc. Là-dessus, je n'ai pas de leçon à donner à un mouvement écolo qui essaie de développer ces alternatives ici. On retrouve les mêmes alternatives dans ces territoires, dans les Outre-mer notamment, avec un retour, une revalorisation du jardin créole, des plantes médicinales à partir de la pharmacopée locale, en fait. Donc il y a un ensemble de choses qui sont faites. Et je parlais d'une autre initiative, de cette association qu'on a co-créée, qu'on appelle Observatoire Terre Monde avec Mélissa, dont le but est de proposer un autre point source d'un discours écologique. C'est-à-dire que dans cette affaire d'écologie décoloniale, il y a au moins deux tâches. La première, c'est de pointer les absences, les points d'ombre dans un discours classique. La deuxième, c'est de rendre possible l'émergence d'autres discours, afin qu'il y ait une pluralité d'acteurs. Et c'est ce à quoi nous travaillons à cet observatoire, en faisant participer différentes personnes qui sont expertes ou qui travaillent depuis les Outre-mer, qu'elles soient académiques ou pas. Et ça a donné lieu à ce numéro de la revue Écologie et Politique qu'on a présenté dans le cadre du mois d'été colonial. Et peut-être pour donner quelques éléments aux auditeurs, on parle souvent... Les Outre-mer restent marginalisés. Ils sont marginalisés du fait que ce sont les restes de l'empire colonial et esclavagiste français. Pourtant, si on parle en termes d'écosystème, de contenu écosystémique, les Outre-mer sont au premier plan. On parle de 80% de la biodiversité française qui se trouve dans ces espaces. 80%. On parle de 97% des eaux marines qui sont du fait de la présence des Outre-mer. Vous savez, vous prenez une terre ferme, vous tracez 200 000 marins tout autour, vous faites un cercle, et l'air marine appartient à la France. Donc la France aujourd'hui est au deuxième plan. Mais pourtant, on reste encore dans une perspective de trophée. Depuis l'Hexagone, on dit, regardez tout ce que nous possédons. Mais dès lors qu'il s'agit de comprendre que ces personnes qui habitent ces territoires sont dans des situations de pauvreté accrues par rapport à ce qu'on trouve en Hexagone, des taux de chômage 2 à 3 fois supérieurs, des taux de pauvreté. À Mayotte, on a plus de 70% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 40% à La Réunion. Vous avez vu le mouvement Gilets jaunes. Nous, on a connu ça déjà en 2009. En Martinique, en Guadeloupe, puis à Mayotte, puis en Guyane. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que même quand on est français et qu'on habite l'Hexagone, on habite la Terre. On habite la Terre avec des personnes qui sont dans trois océans, et que la manière dont on habite la Terre, c'est précisément en engageant des dialogues, des solidarités avec ces personnes, avec ces voix, et non pas en écrasant celles-ci, mais en les rendant possibles. Voilà.
En parlant de dialogue, est-ce que, Kéline, tu veux raconter rapidement ce qui se fait à Grenoble, justement, par rapport à ces questions ?
Il y a un collectif qui est en soutien au comité du 13 janvier, qui est un comité qui s'est créé suite à la poursuite en justice de la lutte anti-chlordécone. Et du coup, c'est un collectif qui s'est créé spontanément et qui est là pour récolter des fonds et aider les luttes qui se passent de manière juridique là-bas, quoi, sur la répression.
Parler de ces questions.
Mais parce que ça a été le point le plus facile pour nous de relier cette lutte-là.
Et par curiosité, enfin, quelle réaction quand vous en parlez, quand vous organisez des soirées, etc. Enfin voilà, est-ce que tu ressens justement, comme ce qu'on a dit sur cette émission, que c'est un absent finalement, un impensé des milieux écologistes, ou est-ce que les gens ont déjà conscience de ça et de la répression?
Bah, les gens ont... on en a parlé, mais je pense que moi, les réactions que je vois, c'est que les gens ne connaissent pas, mais que certaines personnes comprennent très vite par rapport à des trucs avec les pesticides, que c'est quelque chose de connu. Après, je pense que les gens ne se rendent compte pas de la répression qui est dessus, où dans les milieux écolos français, par exemple, on ne va pas avoir énormément de répression, alors que là, on a une répression qu'on va voir dans les quartiers populaires en France, à la limite.
Une simple arrestation ou un contrôle d'identité pouvait se transformer en tapassage qui pouvait aller jusqu'à la mort. Donc ce qui a eu lieu là.
Peut-être. En partie, quoi. Et sauf que là, elle se situe sur des... sur une lutte écologique.
Ok. Est-ce que voilà, quelqu'un veut rajouter un petit dernier mot par rapport à ça ou...
Moi, je pense que si on veut vraiment avoir une pensée écologiste cohérente en hexagone, il faut repenser l'imaginaire politique de la France. Voilà. Il faut sortir de cet occidentalocentrisme. La raison pour laquelle je propose de penser, de faire face à l'histoire coloniale esclavagiste, ce n'est pas pour une repentance, ce n'est pas pour une culpabilisation, mais c'est le fait de constater que, historiquement, c'est comme ça que se sont créés les États, les compagnies, les entreprises, les institutions, les universités, en France comme ailleurs. Et vouloir glisser ce fait sous le tapis ne va pas permettre d'avoir une approche cohérente, globale, de la chose. Aujourd'hui, je répète, on a comme imaginaire géographique de ce qu'est la France, uniquement l'hexagone avec la Corse. Et je pense que cet imaginaire géographique, qu'on voit parfois à la météo dans certaines chaînes, doit être brisé, doit être multiplié, et que ça permet déjà d'avoir une forme de planétarité, de comprendre que même depuis Grenoble, ben en fait, on habite la Terre avec les autres peuples de la Terre. Et précisément, c'est à partir du moment où, comme Kevin l'a rappelé, on va avoir des engagements, des dialogues avec ces autres peuples de la Terre, qu'on va pouvoir véritablement habiter la Terre.
Charlotte, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot?
Moi, par rapport à mon sujet de prédilection qui va être les animaux, je pense que, voilà, comme disait Malcolm, je ne suis pas là dans une pensée culpabilisante, voilà, comment il faut faire de l'antispécisme, etc. Mais c'est-à-dire que, pour moi, la cause animale est extrêmement importante. Elle est la libération animale ne peut pas se faire sans la libération des hommes non plus, des humains. Tout est relié. Et selon moi, c'est important de créer des luttes audibles pour tout le monde. Parce que c'est vrai que quand une des premières fois où, pour la petite anecdote, où j'ai mis un pied dans le milieu antispéciste, on disait, mais vas-y, dis-le que t'es un animal. C'est quand même hyper compliqué pour une personne noire, racisée, d'admettre cette réalité scientifique, que nous sommes des mammifères, etc. Puisqu'on lutte contre cette animalisation, on essaie de regagner sans cesse notre humanité. C'est là que je me suis rendu compte que ce discours était vraiment difficilement audible. Et ben voilà, qui faisait que ça créait encore plus une scission entre eux et nous, l'écologie, l'animalité, toutes ces questions. Parce qu'en fait, on n'était pas compris. Notre histoire n'était pas comprise. Et c'est en comprenant l'histoire des personnes qu'on sera plus efficace pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, pour le vivant, et le vivant des animaux non humains et des animaux humains.
Merci beaucoup pour cette super conclusion. Merci encore d'avoir pris du temps avec nous. Et
merci.
Bonne conférence.
Merci beaucoup.
Merci.
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 Thank you.
terminer cette émission micro-ondes, on fait un tout petit point d'agenda, en plus bien évidemment du mois décolonial qui se déroule jusqu'à fin mars et pour lequel vous pouvez trouver l'ensemble du programme sur le site internet moisdécolonial.fr. Trois petits événements sélectionnés pour vous. Cet après-midi d'abord, juste maintenant, démarre sur la place Félix Poula un rassemblement contre l'occupation illégale d'Afrin, en territoire kurde et en Syrie même, par l'armée turque, donc une région qui est occupée depuis 2017 par les Turcs, voilà, qui tentent de réprimer les Kurdes par tout moyen. Et un deuxième événement qui a lieu un peu plus tard dans l'après-midi, à 16h, un festival du court-métrage sur les questions d'antirépression, avec plusieurs courts-métrages qui viennent parler notamment de répression et de violence policière. Un dernier événement a lieu lundi 28 mars à 19h à la BAF, et c'est un apéro de présentation du recueil Fragments par son auteur Fatou S, qui viendra du coup lire et présenter son livre. C'est une soirée en non-mixité, meuf, gouine, trans et personnes non-binaires. Voilà pour ces informations. On vous laisse sur Radio Campus Grenoble. Et pour notre part, on vous dit à samedi prochain pour une nouvelle émission de Micro-Ondes. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.